Bon, bah, bienvenue tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Mélissa Blais va nous faire une petite introduction au film The Red Pill. Ensuite, il dure une vingtaine de minutes. Ensuite, on retournera dans la salle à côté autour de la table. Adélaïde va aussi donc prendre la parole après, une vingtaine de minutes, c'est ça. Et puis après, bah, le débat sera ouvert pour les questions, la discussion. Donc juste un mot sur les rencontres du Lessignol qui durent deux ans environ, qui ont lieu, ça dépend, peut-être à quinzaine ou une fois par mois. Et voilà, il y a une petite cagnotte pour la soupe, si jamais, qui est sur la table. Merci à ceux qui ont fait les courses et ceux qui ont fait la soupe. Et puis voilà, je laisse Mélissa prendre la parole.
Alors, il s'agit d'un documentaire qui s'intitule The Red Pill. Malheureusement, je n'ai pas trouvé avec les sous-titres français, comme je vous disais. C'est un documentaire fait par une Américaine du nom de Casey J, qui, au départ, se présente comme féministe. Et elle dit qu'elle va justement interviewer et s'intéresser à un groupe états-unien qui s'appelle A Voice... Attendez, n'est-ce pas For Men? C'est A Voice For Men. Et là, de fil en aiguille, elle nous partage son journal intime, c'est-à-dire les transformations dans sa pensée féministe, par rapport à ses rencontres. Donc, à chaque fois qu'elle rencontre des hommes de A Voice For Men, ça l'amène à évoluer dans sa pensée. Donc, ce documentaire a une force de persuasion sur laquelle on pourrait revenir à la période de discussion. Et c'est justement une des raisons pourquoi j'ai, avec Adélaïde, décidé de vous le présenter, c'est qu'on aimerait beaucoup, comme objectif, nous amener plutôt, à reconnaître et déconstruire les discours antiféministes dans nos entourages. Donc, ceci est un bon exemple de documentaire antiféministe et il faudrait voir en quoi, justement, il est efficace au niveau de la persuasion. Donc, elle débute avec, et je vous passe l'introduction, Mais elle dit qu'elle s'intéresse à ce groupe assez virulent, Voice for Men, et elle s'intéresse d'abord à leur site web pour ensuite justement nous faire part, comme je vous le disais, de ces transformations. J'ai choisi de courts extraits, et là je ne sais pas si c'est digeste, parce que je vais vous faire un montage de courts extraits. Alors soyez indulgents et indulgentes s'il vous plaît, je vais trouver la première localisation.
Alors, je vais faire un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire que je vais remercier l'équipe de Lessignol. Merci. Merci à Pierre également pour l'invitation. Avec Adélaïde, nous allons donc vous parler d'antiféminisme, mais on va dresser un court portrait de ce, disons, vaste contre-mouvement qui est composé de différentes formes et les éléments que vous avez vus dans le documentaire appartiennent à une forme en français que l'on appelle plus précisément le masculinisme. En anglais, justement, elle nous a parlé du « men's right movement », mais en français, disons que c'est plus cette forme qui est documentée. Et pour, si vous suivez l'actualité, quelque peu l'actualité, vous avez probablement constaté que récemment, on a un antiféministe masculiniste beaucoup plus meurtrier, qui se fait voir notamment aux États-Unis, mais aussi à Toronto. Je ne sais pas si vous avez suivi justement récemment, donc dans l'État de Floride, un homme est arrivé armé dans une salle de yoga, a assassiné des femmes. Et les journalistes ont ensuite enquêté pour connaître ses motivations. Ils ont retrouvé des vidéos sur YouTube où on l'entendait faire une apologie au meurtre de femmes, mais aussi une apologie au meurtre de migrants et de personnes noires. Donc, il était associé à des groupes d'extrême droite et justement à ce groupe incel, donc les célibataires involontaires, et c'est pas le premier justement qui s'en revendique et qui va ensuite assassiner des femmes. Par contre, le masculinisme n'est pas tout le temps connu pour, c'est justement sous sa forme plus meurtrière, il est souvent plus subtil, il, dans le fond, évolue à l'intérieur d'organisations, des groupes de pairs notamment. Il a des formes plus subtiles lorsqu'il est aussi porté par des intervenants sociaux, et des chercheurs universitaires. Et puis, il est aussi, j'ai oublié de vous parler de la forme plus meurtrière, et ça va me permettre aussi de parler de mon bouquin. Donc, il a été connu en 1989 sous une forme meurtrière à l'École polytechnique de Montréal,
où un homme du nom de Marc Lépine est entré armé d'une arme semi-automatique à l'école polytechnique pour assassiner 14 femmes en disant « Je hais les féministes ». Il a laissé derrière lui une lettre de suicide qui est un véritable plaidoyer antiféministe. Et justement, les médias par la suite ont décidé de chercher ses motivations et parfois d'accuser les féministes d'être à l'origine des motivations du tueur de l'école polytechnique. Donc ça, c'est la recherche que j'ai menée. Je reviens aux formes plus subtiles. Quand je vous disais donc qu'il est parfois porté par des intervenants sociaux, des professeurs d'université, mais somme toute, il s'appuie pour l'ensemble sur un discours de fond que vous avez entendu. C'est la raison pourquoi j'ai sélectionné ces extraits. Un discours de fond qui prétend qu'il existe une crise de la masculinité et que cette crise, cette souffrance propre aux hommes, serait occasionnée par les femmes et les féministes. Donc une société trop féminisée, et les complices de cette féminisation sont les féministes qui auraient justement perverti la masculinité. Donc on pourrait y revenir, si vous voulez, déconstruire à la période de discussion ces discours, disons les axes de discours qu'on a entendus, notamment les hommes se suicident plus que les femmes, donc ça explique pourquoi il y aurait une crise de la masculinité, du moins c'est un indicateur de crise. Ensuite, on a aussi les fausses allégations en matière de violence conjugale et sexuelle. On prétend que la violence, elle est autant commise, donc les auteurs de violence seraient autant des femmes que des hommes en contexte de conjugalité. Il ne précise pas, mais je vais préciser, hétérosexuel. Donc, tous ces discours, on pourrait y revenir, mais pour l'instant, j'aimerais céder la parole à Adélaïde, justement, sur cette idée comme quoi le masculinisme non plus n'est pas l'apanage de la droite. Le masculinisme évolue, surtout au Québec, j'ai pu les documenter dans les organisations syndicales. Il n'est pas l'apanage de la droite et il est parfois visible à gauche, mais aussi d'autres formes d'antiféminisme, ma foi encore plus subtiles, sont présentes dans les organisations de gauche. Et c'est là où je te cède la parole.
Merci, Mélissa. Alors moi, dans le cadre de ma recherche, dans le cadre de ma maîtrise universitaire à l'UQAM, j'ai décidé de travailler sur le féminisme, l'antiféminisme à l'extrême gauche. Et pour ce faire, donc, j'ai sélectionné des partis d'extrême gauche en Suisse romande, donc à Lausanne et à Genève plus précisément. Pour ce faire, j'ai interrogé donc, des femmes, c'était important pour moi de donner la parole à des femmes, sur leurs ressentis et leur vécu par rapport à l'antiféminisme. Donc on parlait justement de différentes formes d'antiféminisme. Moi j'ai identifié, et je vais vous expliquer ce que c'est que l'antiféminisme ordinaire. L'antiféminisme ordinaire, il a une proximité avec le sexisme. Et puis cette proximité-là, elle fait qu'en fait cet antiféminisme, il devient transparent. Et c'est une des raisons pour lesquelles chercher à étudier l'antiféminisme dans des communautés qui se réclament de l'égalité entre les sexes, c'est difficile. Contrairement à l'idéologie d'extrême droite, qui elle représente la forme la plus virulente d'antiféminisme. La difficulté d'isoler le sexisme d'antiféminisme, ça relève justement de cette ordinarité-là de l'antiféminisme. C'est l'ordinarité de l'antiféminisme qui fait que son identification, elle est difficile parce qu'il passe inaperçu. Au même titre que le sexisme ordinaire, il peine à être reconnu pour du sexisme parce qu'il est subtil, sous-jacent et incorporé. Le concept d'antiféminisme ordinaire, c'est celui qui correspond le mieux au cadre politique de gauche parce que cette forme d'antiféminisme, elle est plus subtile et donc elle a plus de chances, entre guillemets, d'apparaître dans les mouvements politiques où l'égalité entre les sexes fait partie intégrante des valeurs défendues. Moi, j'ai identifié donc plusieurs formes d'antiféminisme ordinaire, mais aussi du sexisme ordinaire, et c'est ça que j'aimerais vous parler en premier avant d'arriver à l'antiféminisme, parce que c'est ce que les femmes que j'ai interrogées ont le plus facilement identifié. L'antiféminisme, ça a été vraiment quelque chose qui a été difficile à nommer pour elles, et qui a été et que moi j'ai ressenti et j'ai pu analyser dans leur discours. Donc il y a plusieurs manifestations de sexisme ordinaire dans ces parties-là. Et le premier, c'est de la prise de parole. Donc la prise de parole, comme on le sait, c'est un lien direct avec le sentiment d'appartenance et de légitimité. Donc il y a plusieurs militantes que j'ai interrogées qui font ressortir un sentiment de malaise, à la fois dans la prise de parole publique, mais aussi dans la légitimité de l'exercice du militantisme. J'ai relevé des attitudes sexistes dans tous les parties que j'ai étudiées. Donc... ça, c'était vraiment une partie très importante. Il y a un seul parti, par contre, qui est conscient de cette problématique liée à la prise de parole. Et ils ont mis en place un système d'alternation du tour de la parole dans les assemblées. Mais ça ne signifie pas pour autant que les enjeux liés à cette problématique s'effacent. La deuxième manifestation donc, de sexisme ordinaire, c'est les remarques sur le corps des femmes. Donc ça a été aussi discuté dans mes entretiens. Et elles ont été autant exprimées par des hommes, mais aussi de la part des femmes interrogées elles-mêmes. Donc ça soulève un point important, c'est que les femmes aussi reproduisent des rapports de domination. Et puis les commentaires sur l'apparence physique et l'habillement, elles font partie des nombreuses manifestations de sexisme politique. Et elle n'est pas abordée, donc l'apparence physique, c'est pas abordé de la même manière par les politiciennes que par les politiciens, justement parce qu'elles évoluent dans un milieu masculin. Et puisqu'elles sont confrontées à un monde dont les valeurs et les règles ont été écrites par et pour les hommes, elles sont obligées de respecter les représentations sociales liées à la féminité. Donc être jugée par son apparence physique peut aussi être une démotivation à la politique. Ça, c'est une des élues, une des politiciennes qui me l'a expliqué. La troisième forme de sexisme ordinaire, c'est la séduction et les blagues. Donc il y a une des militantes que j'ai interrogée qui m'a confié que la séduction, c'était une chose courante dans le parti. Donc je la cite. « Il n'y a pas trop de trucs bizarres au niveau sexuel ou harcèlement. Bien évidemment, il y a des trucs de séduction et tout, mais ça, je ne pense pas que mes camarades masculins soient parfaits. Hein. Je ne pense pas qu'ils font autant attention quand ils sont dans d'autres milieux. » Donc le fait qu'elle ait employé l'expression « bien évidemment » dans sa phrase, c'est surprenant. Pourquoi est-ce que la séduction serait une chose évidente dans un milieu qui est de prime abord non sexualisé ? Par rapport aux blagues sexistes, bien que le sujet n'ait pas été abordé directement dans mes questions, il y a certaines militantes et politiciennes qui m'ont rapporté il y a une politicienne, entre autres, qui a expliqué que suite à la modification de la composition d'un groupe parlementaire, avec pour conséquence une majorité féminine de politiciennes, le responsable il a commencé à parler de gynécée pour qualifier le groupe. Donc même si la répondante me disait que bon, c'était une remarque humoristique, ben, ça reste une blague sexiste. Pour une militante en particulier, les blagues sexistes, elles s'associent au racisme. Donc elle a soulevé deux problématiques en lien à la fois avec sa nationalité et avec son genre. Donc elle est doublement victime de blagues et elle se situe au croisement du coup entre deux systèmes d'oppression, le racisme ordinaire et le sexisme ordinaire. D'ailleurs, petite parenthèse, une des militantes a dénoncé la blanchitude, comme elle le nomme, de son parti. La quatrième forme de sexisme ordinaire, c'est la division sexuelle du travail. Donc la division sexuelle des tâches, c'est un élément de la matrice hétérosexuelle. Deux aspects sont inhérents à cette matrice-là. Le premier, c'est celui de la binarité de la société. Donc ça repose sur une séparation asymétrique et antagoniste des hommes et des femmes. Et puis le deuxième, qui s'additionne au premier, c'est le mythe de la complémentarité des sexes, qui veut qu'on soit attiré de facto par le sexe opposé. Alors par rapport à la division sexuelle du travail, dans les milieux d'extrême gauche, et particulièrement dans les groupements militants, la conception du travail, elle reste genrée, et puis celle du travail militant d'autant plus. C'est l'aspect sexiste qui est le plus dénoncé dans mes entretiens. J'ai pu observer que les tâches qui sont traditionnellement dites féminines, comme le secrétariat ou celles liées au domestique, elles étaient désertées par les hommes et puis qu'elles étaient dévalorisées. Par exemple, une répondante expliquait que lors de la comptabilisation de signatures, les hommes ne s'étaient pas du tout proposés pour effectuer ce travail de merde, comme elle le dit, et qu'il a fallu intervenir pour les inciter à participer. Donc ça fait allusion au travail invisible, gratuit et non reconnu. On peut parler du concept d'appropriation collective du travail militant, des militantes, pour exprimer l'enjeu de la division des tâches et puis la hiérarchisation. Par rapport à la division sexuelle du travail, il y a aussi la charge mentale des tâches parentales et domestiques qui incombe encore et toujours aujourd'hui essentiellement aux femmes et qui a été soulevée par plusieurs répondantes. Donc il y a une d'entre elles qui dénonçait les heures de réunion politique, par exemple, qui se tiennent généralement entre 16 et 18 heures. Une autre politicienne critiquait les horaires aussi des réunions et la division sexuelle du travail dans le cadre privé. Ça a pour résultat que les hommes seulement peuvent se libérer pour être présents lors des événements dans le parti. Il y en a une qui ajoutait également que le fait que les femmes ne s'impliquent pas davantage en politique, c'était directement lié à cette charge mentale. Il y a aussi d'autres formes de sexisme qui sont apparues dans mes entretiens et l'une d'entre elles se présentait sous la forme de l'appropriation des sujets féminins de la part des hommes du parti Ça, c'est lorsque les médias se saisissaient des questions politiques. Donc maintenant, je vais passer à l'antiféminisme ordinaire, à l'extrême gauche. Donc, que je vais répéter qui n'a pas du tout été observé ou en tout cas nommé par mes répondantes, mais que j'ai pu, moi, mettre en avant et saisir. Donc, il y a plusieurs manifestations. La première, c'est le mythe de l'égalité déjà là et le post-féminisme. Donc, l'égalité déjà là, c'est affirmer que l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est atteinte, et puis que les luttes féministes sont désuètes, qu'il n'est pas nécessaire de se battre et que le mouvement féministe n'a plus de raison d'exister, et que les ressources attribuées aux femmes ont été largement utilisées, sous-entendues au détriment des hommes. Le mythe de l'égalité déjà là, il a été abordé à deux reprises par une de mes répondantes. Elle a été la seule à sous-entendre que le féminisme avait plus, ou dans certains cas, pas lieu d'être. Donc ce qu'elle sous-entendait, c'était que les inégalités systémiques entre les hommes et les femmes, elles n'existaient pas, et que les femmes qui ne réussissent pas dans la vie politique ou ailleurs, elles sont en échec parce qu'elles ne sont pas assez donné les moyens pour réussir. Donc ça fait écho au post-féminisme, j'y vais revenir un petit peu plus bas. Le problème avec ce type de pensée, c'est qu'on efface complètement les rapports de pouvoir en fait, entre les sexes, et puis on renvoie la problématique des inégalités entre les hommes et les femmes à un niveau individuel. Par rapport au post-féminisme, donc, bien qu'il se réapproprie quelques idées du féminisme, il propose des idées qui sont en opposition avec les revendications des mouvements des femmes. Les mouvements féministes, ils sont de tout temps opposés à l'objectivation du corps des femmes et à la chosification de la féminité. La nouvelle vague féministe, ou dite du post-féminisme, elle cherche dorénavant non plus à combattre l'appropriation du corps des femmes, mais à le promulguer, à le mettre de l'avant comme marque de combat féministe. Se plier au diktat de la beauté, c'est pour le post-féministe celui qui permet tout, même d'être sexy. Donc ça, c'est toujours selon les préférences masculines, ce qui en soi une démarche hétéronormative. La présence du post-féminisme, elle est particulièrement tangible à travers la culture mainstream. Et ce discours qui est médiatisé et popularisé au point d'être présenté comme le féminisme dominant. Il propose une vision dont les prémices, elles œuvrent à dépolitiser la condition des femmes. Et c'est en ça qu'il peut être qualifié d'antiféministe parce que la lutte politique, elle est du coup complètement évacuée. La deuxième forme d'antiféminisme ordinaire que j'ai soulevée, c'est l'exagération. Donc certains et certaines antiféministes peuvent se dire féministes en ne faisant que dénoncer les excès des féministes. C'est ce que j'ai pu observer dans mes entretiens. Il y a des membres d'un parti d'extrême gauche qui est officiellement féministe, qui considèrent que les féministes vont quand même un peu trop loin, dans la féminisation du langage par exemple. Donc c'est une manière de délégitimer le féminisme en soulignant ses soi-disant excès. La troisième forme d'antiféminisme ordinaire, c'est le négativisme. Donc ça, c'est la forme la plus aboutie de désinformation au sujet du féminisme, parce que ça présuppose la symétrie des problèmes éprouvés par les femmes et les hommes dans la société actuelle. Ça, c'est ce qu'on a pu voir un peu dans le film, on en reparlera sûrement plus tard. Lors de mes entretiens, j'ai cherché à voir ce que les femmes pensaient, en particulier des groupes d'entraide pour les hommes violents. Bah, c'est un bon exemple de négativisme, dans le sens où dans certains cas, on part du principe que les femmes violentées et les hommes violents sont tous les deux des victimes. Les deux sexes souffriraient de stéréotypes de genre qui les pousseraient soit à être violentées, soit à être violents. Une des répondantes affirmait que si ça lui arrivait à elle, elle aurait les ressources pour fuir le foyer. Donc c'est ignorer en fait l'aspect systémique et les différentes formes de violence faites envers les femmes, tout en entretenant l'idée qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. La quatrième forme d'antiféminisme ordinaire, donc c'est l'Occident versus... Moi, j'ai nommé ça l'Occident versus l'autre. Donc l'antiféminisme ordinaire, il peut s'appuyer sur une lecture réductrice et abusive des phénomènes. Et l'égalité entre les femmes et les hommes, du coup, elle est conçue comme une affaire privée. Et ça, c'est très efficace dans des sociétés où l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est inscrite dans la loi, comme en Suisse, par exemple. Mais surtout si on compare nos sociétés occidentales aux sociétés non occidentales. Donc ça arrive que les luttes féministes collectives, elles soient remises en question. Ce que j'ai pu observer lorsqu'une des répondantes affirmait que l'égalité entre, là je la cite, l'égalité homme-femme en Occident, elle doit crever les yeux. Alors cette politicienne, elle met l'Occident en opposition avec le reste du monde pour démontrer que l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est atteinte et du coup, il n'y a pas de quoi se plaindre. C'est ce qu'ont remarqué aussi plusieurs chercheuses. Vous avez remarqué que la façon dont on parlait des étrangers en Suisse, ça les renvoyait à leur manière de traiter les femmes de manière sexiste. Elles ont nommé ce phénomène le sexisme extraordinaire, parce qu'il appartient, puisqu'il appartiendrait exclusivement aux étrangers, ce qui est souvent plus visible que le sexisme ordinaire, qui touche aussi la majorité nationale, mais qu'elles refusent de considérer. Alors on laisse croire, en mettant en exergue le sexisme des autres, le sexisme étranger, que la société suisse, elle est égalitaire. L'égalité des sexes, elle devient l'argument d'une double discrimination, c'est-à-dire à la fois des étrangers et à la fois des femmes. L'ethnicisation du sexisme, c'est un processus d'altérisation, donc ça invisibilise les rapports inégalitaires et ça favorise la stigmatisation et la discrimination des minorités et des groupes dominés. La cinquième forme d'antiféminisme ordinaire, c'est le féminisme de façade. Donc ça, c'est la plus pernicieuse parce qu'elle est la moins repérable. Pour le féminisme de façade, ça consiste à faire gentiment glisser des revendications féministes au profit de causes jugées prioritaires, par exemple en renonçant à la féminisation d'un texte, parce que la priorité, ça serait d'attirer le plus de gens à une manifestation, par exemple contre le chômage, et il ne faudrait pas démobiliser des gens que rebute la féminisation du langage. Ça renforce l'idée que le combat féministe peut attendre et qu'il y a d'autres combats à mener avant celui-là. Pour une militante en particulier, il y a un désintérêt de la part des hommes face aux enjeux des luttes féministes. À plusieurs reprises, sans que je pose de questions spécifiques à ce sujet, les militantes et les politiciennes que j'ai interrogées m'ont avoué qu'elles s'étaient senties instrumentalisées en tant que femmes, dans certains cas, et en tant que féministes dans d'autres. Autrement dit, il y a une tendance à l'extrême gauche suisse romande à utiliser les femmes en tant que femmes, ainsi que les féministes, afin de se donner bonne conscience, c'est-à-dire de déculpabiliser d'éventuelles attaques sexistes en invoquant la présence des femmes et des féministes dans le parti. Les hommes du parti en question, ils prétendent faire du féminisme un enjeu central et une lutte prioritaire, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Une des répondantes dit que les féministes du parti se sentent des prétextes, c'est-à-dire que pour que le parti soit reconnu et perçu par l'électorat comme un parti féministe, c'est essentiel pour lui de compter des femmes en son sein. C'est important pour le parti de paraître féministe en proposant des femmes lors des élections, même si la structure et les attitudes du parti font pas écho aux valeurs féministes. Il y a une des politiciennes qui reconnaît volontiers que sa présence au sein du parti est due à son genre, puisque, je la cite, « Quand on m'a demandé de venir au bureau, on m'a dit que, bon, moi j'étais une femme et on avait besoin d'une femme. » Elle rajoute également que son engagement en politique, il était perçu d'une manière différente pour cette raison-là. Et pour une autre militante, le féminisme devient une mode, et ça c'est toujours bon pour l'image du parti. Donc la dernière forme d'antiféminisme ordinaire, c'est la hiérarchisation des luttes. Donc ça consiste à accorder la priorité à une autre lutte que celle des féministes, par exemple l'anticapitalisme. Alors ce qui est vrai pour des membres, ce qui est vrai pour des membres des partis d'extrême gauche se retrouve également chez les participantes de mon enquête. À plusieurs reprises, j'ai observé que des féministes avaient un discours marxiste priorisant pour schématiser la lutte anticapitaliste, qui une fois gagnée mènera donc à la suppression des classes et forcément du patriarcat. C'est donc une forme de hiérarchisation des luttes, la lutte anticapitaliste avant la lutte féministe. Il y a une des répondantes qui rapportait que les jeunes féministes du parti en question sont réticentes à affirmer se battre pour toutes les femmes de toutes les classes sociales, incluant la classe dominante. Selon elle, je cite, « Les femmes plus âgées continuent d'appliquer une analyse de classe marxiste en évacuant l'analyse féministe des rapports sociaux. » Il y a une autre militante, elle a mis de l'avant le conflit qui existe dans son parti par rapport à la différence aussi entre le mouvement des femmes et le féminisme au sein du mouvement social. Donc ça fait écho à la hiérarchisation des luttes, puisque dans le cas du mouvement des femmes, la lutte, elle est comprise hors des autres mouvements de libération, alors que dans le cas du féminisme au sein du mouvement social, il se pose la question de l'intégration des luttes féministes dans un parti politique qui peut tenir d'autres lignes prioritaires comme la lutte anticapitaliste.
Voilà. Merci. Merci.
Alors, c'est « Ne partez pas ».
Pour que tout le monde sache, donc on enregistre une partie seulement, enfin tout dépend des séances que l'on fait ici au Rencontre du Signol, pour que les personnes qui ne peuvent pas être là puissent ensuite écouter ce que l'on dit là. Et ensuite on décide effectivement, comme on a décidé pour cette séance-ci, comme pour la dernière fois, de couper au moment où les personnes interviendraient. Donc je vais couper, mais j'aurais du coup, alors je peux commencer avec une première question que j'aimerais qu'elle soit présente pour les personnes, puis ensuite je coupe si ça vous va. Mm-hmm. Ouais. Je voulais juste vous poser la question sur, lors de ton enquête notamment, as-tu observé dans certains groupes justement d'extrême gauche que la conscience d'une dérive potentielle est présente, et dans ce cas-là, est-ce que des outils sont mis en place, et si c'est le cas, lesquels? Puis après ta réponse, je coupe.
D'accord, j'ai te coupé. Parce que le sujet, il y a deux semaines, c'était quand même pas pareil. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient qu'on coupe la discussion? C'est dommage qu'elle puisse pas passer à la radio ou en podcast. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient qu'on coupe le micro? Oui. D'accord, ok.
Moi, ce que j'ai pu observer dans mon enquête, c'est que aucune des femmes interrogées n'a identifié d'antiféminisme. Ça, c'est vraiment moi qui l'ai identifié. Du coup, pour cette raison-là, rien n'est mis en place pour lutter contre l'antiféminisme.
Ok.
Voilà.
Merci.